collaboration avec Alimentation Mon Quartier, plusieurs modèles en inventaire. Roulotte, fifth wheel, tente roulotte, roulotte de parc ou encore boîte de campeur. On est des spécialistes là-dedans. On a les meilleures offres de la saison, donc de jeudi jusqu'à dimanche. Venez magasiner et réservez votre roulotte avec la grande vente porte ouverte chez Escale VR. C'est l'événement à ne pas manquer chez Escale VR Beaumont. On est situé sur la sortie 337 de l'autoroute 20. Escale VR Beaumont, là où l'aventure commence.
La météo présentée par Chaloux. Des notes de pamplemousse, houblon, pis de vacances. Chaloux, 1000 sortes de bière. Chaloux, Beauport et Saint-Émile.
Tout l'été. Summertime. Vous tiens informé. Boulevard Against le matin, avec Jeff Fortin et Jacinthe Varel. Marceau le midi, avec Yann Marceau et Pascal CV. Le retour de Boulevard. Avec Audrey Pinchot et Max Larouche. Boulevard 102.1, la radio qui t'accompagne partout. Au FM 102.1, l'application mobile et le BLVD.fr.
Boulevard 102.1.
Une propriété Leclerc Communication.
Boulevard 102.1.
Marceau le midi.
Précisément midi 1, alerte météo sur l'environnement à Canada, c'est de la pluie et des orages, c'est le topo pour toute la journée ainsi que toute la soirée actuellement sur Québec, on est autour de 18 degrés, oui 18 degrés, ce soir on parle d'un minimum de 14 degrés, demain vendredi ce sera un ciel dégagé. Donc, du soleil, maximum de 24 degrés. Samedi, du soleil, maximum de 24. Et dimanche, ce serait le retour des nuages avec un maximum de 20 degrés. Pour nous joindre en studio, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci d'être nos yeux, nos oreilles. 418-971-1021.
Ouh, vous êtes nombreux à nous écrire. On dit qu'on n'est pas tous des brochets Yannick sur la route, mais selon nos auditeurs, il y en aurait beaucoup. 4 accidents à Québec en ce moment. Charest-Est, à l'est de Saint-Sacrement, c'est super difficile. Même qu'on nous indique, en d'autres mots, que c'est le bordel total.
L'aquaplanage doit être hallucinant. Puis je pense aux gens qui sont justement à vélo aujourd'hui, ça doit être un peu plus difficile.
On pourrait peut-être avoir une solution avec à pédalo, ça s'en vient peut-être dans la ville de Québec.
Laurent... Propose pas ça au maire à pédalo.
À pédalo, là, entre la rive sud et la rive nord.
Vous savez, on a l'Antarctique à sauver. Là. Fait qu'on propose aujourd'hui, moyennant un investissement de 8 millions de dollars de la ville de Québec, à pédalo.
À pédalo.
Oui, pour quand il pleut. On s'en va à Québec en pédalo.
Quand le traversier scrape, on peut-tu prendre les à pédalo? Peut-être qu'un kayak, disait l'autre.
Eh bonne!
Laurentienne Sud, auteur avenue Tewksbury, voie de gauche bloquée, sortie de route. La SQ est sur place, mais je vous dirais qu'ils sont un peu partout. En ce moment, la SQ Henri IV Sud, auteur chemin Saint-Louis, voie de gauche partiellement travaillée, il y a une panne là. On est là du côté du ministère aussi des Transports. Du Plessis Sud, autoroute boulevard Hochelaga, voie de gauche bloquée, accumulation d'eau, extrêmement dangereux dans le coin. Du Plessis Sud, dans l'accès pour le pont Pierre-Laporte, je dois vous dire aussi que c'est entravé dans la voie de droite. Et c'est toujours parce qu'on a un refoulement d'eau assez important. Soyez prudents. C'est pas tout le monde qui fait attention à ce moment-là. Il faut conduire pour les autres, malheureusement. Mais également, je veux dire, vous pouvez pas éviter les roulières pleines d'eau. Il va falloir passer peut-être à cheval. C'est ça le truc, Yannick?
Peut-être. Qui sait? Hey, on parle d'Hydro-Québec dans l'actualité. Hydro-Québec a perdu son PDG dans les dernières semaines, Michael Sabia, qui a été remplacé par une dame qui était à l'interne, qui est une bonne personne, qui est une bonne gestionnaire, à ce qu'on nous a dit. Son nom, c'est Claudine Bouchard. Et elle est la nouvelle PDG d'Hydro-Québec. Et elle juge que pour avoir des changements chez Hydro-Québec dans un processus d'amélioration constant, qu'il serait impossible de répondre à l'explosion de la demande d'électricité sans un changement radical des façons de travailler de ses 23 000 employés. Et dans une rencontre interne, selon les documents qui ont été obtenus par Radio-Canada, la société d'État les encourage à l'audace et à la prise de risque. Et là, ça a fait en sorte que les gens du syndicat se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est ça? T'sais, la nouvelle PDG qui veut des employés déraisonnables. » On a le plaisir de jaser avec le président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, Gilles Cazade. Bonjour, M. Cazade.
Bonjour, M. Marceau.
J'ai-tu scrappé votre nom de famille, là?
Non, tout va bien.
D'accord. Parce que là, je me suis dit, est-ce que c'est Cazade? Est-ce que c'est Cazade?
Non, Cazade, tout simplement.
Très content de vous jaser. Donc, vous représentez 23 000 employés. Qu'est-ce qui
Pas du tout. J'en représente que 5 400 sur les 23 000 employés. Donc, spécialiste et professionnel d'Hydro-Québec.
Donc, vous représentez le corps des employés d'Hydro-Québec. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds quand vous entendez la PDG qui veut des employés déraisonnables?
Ben, c'est-à-dire que, on sort de nos gonds, on va être plus raisonnable que ça. Tout de même, on est un syndicat de professionnels. Ce qui nous heurte, c'est que la livraison d'électricité à tous les Québécois et toutes les Québécoises, c'est pas un luxe. C'est quelque chose que tout le monde a besoin d'avoir en quantité suffisante, puis avec un niveau de fiabilité suffisant. On peut prendre des risques dans certaines industries ou entreprises. Couper la livraison d'électricité aux gens, je ne pense pas que c'est un bon endroit où il faut absolument prendre des risques pour éventuellement s'exposer à des défauts de livraison d'électricité, sachant que, un, l'électricité a permis de sortir le Québec de... notre hydroélectricité a permis de nous sortir de la révolution tranquille et puis d'atteindre un niveau quand même un niveau d'émancipation important. Puis l'autre chose à ne pas oublier, c'est que justement, c'est parce que le réseau électrique d'Hydro-Québec est très fiable que nos entreprises d'ici peuvent compter sur un approvisionnement sûr et fiable et qu'on peut vendre aux réseaux voisins, notamment les États-Unis, parce que justement, notre fiabilité est un gage de réussite et ils n'ont pas peur d'échanger avec nous. Donc, prendre des risques avec la livraison électrique, ça devient, ça peut être discutable.
Ouais. Mais c'est parce que dans ce qu'elle mentionne, elle a donné plusieurs exemples. Elle a donné l'exemple, entre autres, de la construction de trois lignes de transport à très haute tension en même temps, alors qu'habituellement, Hydro-Québec en faisait une seule à la fois. Je veux dire, c'est juste de dire aux employés, savez-vous quoi? Tout ce qui se faisait avant où on prenait notre temps, on peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. C'est possible de le faire. Parce que on regarde ça là, au niveau de la production, le plan d'action 2035 prévoit l'investissement de 185 milliards de dollars avec la construction de 5000 km de nouvelles lignes de transport d'électricité et le déploiement massif d'éoliennes sur le territoire. Ce qu'elle vous dit, c'est pas prenez des risques au péril de votre vie. Ce qu'elle vous dit, c'est au niveau de l'imagination, au niveau de la création, au niveau des façons de faire, bien, vous allez être imputable. Mais ce qu'on veut, c'est que vous essayiez des choses pour améliorer le service, pour améliorer le produit. Et moi, nous, de notre côté, c'est sûr qu'on n'est pas à l'interne chez Hydro-Québec comme vous l'êtes, mais de notre côté, on voit que du positif à ça. C'est-à-dire, salut les travailleurs, pour les décideurs, prenez des risques, faites des choses qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure productivité. C'est comme ça, je le perçois. Moi, je vois pas toute la gang à la CNESST. Du moins, c'est pas ce qu'on veut, là.
Mais en fait, c'est on parlait pas de CNESST, puis en passant, on construit pas les lignes, on donne un contrat Hydro-Québec, ne vous inquiétez pas, on exploite la ligne, puis on l'entretient. C'est ça notre travail. C'est donc votre côté contrat, c'est autre chose.
Mais quand elle a donné l'exemple de la construction de trois lignes de transport à très haute tension en même temps, alors qu'habituellement Hydro-Québec en faisait une seule à la fois, elle parlait de qui? Elle parlait-tu des employés d'Hydro-Québec ou des entreprises
non,
avec qui Hydro-Québec fait affaire?
C'est plutôt de la gestion contractuelle de ce côté-là, il me semble, mais je ne veux pas parler, je ne connais pas le dossier en intégralité, puis c'est que ce n'est pas dans mon créneau. Moi, quand je veux vous dire...
Mais qui a construit ces trois lignes de transport-là? C'est-tu les employés d'Hydro-Québec? Parce que si ce n'est pas les employés d'Hydro-Québec, ça veut dire que le nouvel PDG est carrément dans le champ.
Ben, c'est pas les employés. Les employés, les barrages n'ont pas été construits par les employés d'Hydro-Québec. C'est
on donné parle des trois lignes de transport, pas des barrages, on parle des trois lignes de transport.
Mais c'est pareil, c'est en général, c'est des employés chantiers, c'est donné à contrat.
Okay. Donc l'exemple qu'elle a donné, c'était pas un exemple qui s'adressait aux employés d'Hydro-Québec, c'est ce que vous me dites?
Ben exactement.
OK. Et ce serait quoi le prix à payer pour les syndicats quand la nouvelle PDG mentionne qu'elle veut des employés plus créatifs, qu'elle veut des employés plus productifs?
C'est dans notre sortie, c'était pas une question de prix à payer pour les syndicats, Monsieur Marceau. C'est vraiment une question de fiabilité de réseau et de fiabilité d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on joue avec un réseau électrique, c'est très compliqué, c'est très étendu. Et pour donner un exemple, il y a déjà eu il y a quelque temps un problème avec un équipement électrique qui était en Gaspésie. Y entrer en résonance, en tout cas, un problème électrique qui faisait déclencher un transformateur au niveau de la baie James. vous comprenez que c'est pas normalement le cas, mais ça arrive quelquefois. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est bien beau de vouloir des projets, mais il faut faire attention à ne pas mettre en péril la fiabilité du réseau, par exemple. Parce que si jamais notre réseau devient moins fiable parce qu'on essaie de mettre plein de choses en même temps de la mauvaise façon, en ligne sur le réseau, ça peut affecter la fiabilité. Puis si on affecte la fiabilité, ça voudrait dire aussi que nos échanges avec les réseaux voisins pourraient être altérés parce qu'on ne pourra plus assurer une fiabilité suffisante pour que les réseaux voisins nous considèrent comme étant un bon partenaire d'affaires.
Monsieur Cazard, est-ce que vous êtes le président du syndicat des spécialistes et des professionnels d'Hydro-Québec?
Oui.
OK. Parce que je vous ai posé la question, c'est quoi le prix à payer selon vous? Pourquoi vous vous inquiétez du prix à payer? Et là, vous me dites, non, c'est pas une question du prix à payer. Mais quand je regarde, là, on me dit que le syndicat des spécialistes et des professionnels d'Hydro-Québec, ça, c'est vous qui êtes à sa tête, qui représente plus de 5 000 employés, a décliné, bon, la demande d'entrevue, car il est en négociation actuellement avec la Société d'État. Là, on réussit à se jaser. Mais on a quand même réussi à regarder la lettre que vous avez adressée à vos membres et vous posez la question... Vous vous êtes posé la question du prix à payer? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous me dites qu'il n'y a pas de prix à payer, mais là, vous posez la question. Est-ce que vous vous êtes posé la question du prix à payer? On comprend pas. Bien. Vous dites que l'absence de définition claire des objectifs et des actions laisse planer l'ombre de la déresponsabilisation de la part de la haute direction en cas de problème. Le bouc émissaire ne sera-t-il pas celui qui a osé? Ça, il y a un prix à payer?
Au niveau du le prix à payer, c'est au niveau de la fiabilité du réseau.
Ah, il y a un prix à payer, voilà, OK.
Mais c'est pas pour le syndicat. Et nous, c'est plutôt, tu sais, c'est un peu comme, je vais vous dire, c'est des positions. Si on regarde, par exemple, pour le projet de loi 69, si jamais on autorise le recours à plus de contrats gré à gré, on gagne du temps sur octroyer un contrat, mais peut-être qu'on le paye pas au bon prix. On peut penser, par exemple, aux exemples dans l'actualité récente, le processus TACLIC, par exemple, ça peut être un prix à payer.
Okay.
Mais c'est pas forcément... je veux dire, notre position était plus une position qui était en lien avec un enjeu très précis qui est lié à une partie de négociation. Nous sommes en négociation et ces enjeux-là de négociation ne sont pas disponibles sur la place publique.
Voilà, je comprends.
On ne négocie pas sur la place publique.
Je comprends. Donc, le syndicat s'interroge aussi sur les limites d'acceptabilité de ces risques-là que la nouvelle PDG vous demande de prendre là, pour essayer d'améliorer le service. Et là, vous dites, qui va en assumer les conséquences? Exemple, quelqu'un qui est un peu plus créatif que les autres, quelqu'un qui veut améliorer les choses. À un moment donné, si cette personne-là fait une erreur, est-ce que c'est la PDG qui va être dans le tort ou c'est la personne qui va avoir fait ce que la PDG lui demande, c'est ça?
C'est un peu ça l'idée, c'est que on peut prendre des risques, on peut être créatif, puis notez que je suis très en faveur pour qu'il y ait de l'innovation. Le Québec se développe grâce à l'innovation, mais prenons par exemple un dossier qui peut être très simple. Exemple, si on veut plus d'éoliennes en Gaspésie, c'est très bien de vouloir plus d'éoliennes en Gaspésie. Par contre, si on veut plus d'éoliennes en Gaspésie, il va falloir penser qu'il va falloir que l'on construise une nouvelle ligne de transport qui va partir de la Gaspésie en passant par la rive sud de Québec pour rentrer jusqu'à Montréal parce qu'en Gaspésie, l'électricité ne peut plus sortir. Il n'y a plus de ligne. Donc, est-ce que pour de la production éolienne supplémentaire en Gaspésie, est-ce que la population du Québec, de toute la rive sud du Saint-Laurent, est prête à avoir passé une ligne de transport à 735 kV? C'est une question.
Monsieur Cazade, quelles sont les idées de votre syndicat? Vous faites partie du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec. Quelles sont vos idées? Parce que là, Hydro-Québec doit augmenter de 50% sa production d'électricité d'ici 10 ans pour fournir tout le monde. De votre côté, qu'est-ce que vous proposez à l'employeur pour justement être capable d'augmenter la production d'ici 10 ans de 50%?
Ben, en fait, on peut commencer à la production de 50%, il y a plein de façons d'aller la chercher. Je veux dire, les employés d'Hydro-Québec ont une excellente expertise et la travaillent tous les jours et des plans pour installer ne serait-ce que quels que soient les moyens de production, que ce soit un barrage, que ce soit des éoliennes ou des panneaux solaires, peu importe, tout ça, c'est déjà intégré. On a pensé aussi aux réserves pompées. Il y a plein de technologies qui sont à notre disposition pour répondre à la demande électrique du Québec. Ça, oui. C'est le premier point. Deuxième point,
oui.
En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de 50 % de plus? C'est peut-être une question qu'on peut se poser en tant que société. On peut prendre l'exemple de la compagnie de batterie Northvolt qui devait s'établir sur la rive sud de Montréal. Mm-hmm. On ne va pas parler de grands chiffres, mais en gros, Northvolt, c'est de dire on va développer une entreprise qui va demander une alimentation électrique quand même qui est importante dans un endroit du réseau qui est quand même sollicité. Il y a la grande agglomération de Montréal à livrer en électricité. Pour le bénéfice de vos auditeurs, faire rentrer une usine de ce type-là à cet endroit-là, ça revient à prendre, à intégrer en quelques années la moitié de la ville de Laval en résidentiel. C'est ça que ça représente.
Ouais.
Est-ce que c'est le meilleur endroit? Est-ce que c'est le meilleur... est-ce que c'est vers ce genre de contrat qu'on doit diriger l'électricité? C'est pas à moi de prendre la décision, mais... est-ce que c'est la bonne chose à
mais
faire?
Poser, la question, que... poser la question, c'est très bien, mais de ce que je comprends, c'est que vous et moi, on est à peu près du même avis là, pour ce qui est du dossier Northvolt. Moi, tout ce que je veux pas, puis je pense que c'est la majorité des gens qui peuvent nous écouter, monsieur Cazade, c'est qu'on me dise combien je dois mettre mon thermostat le jour, le soir ou la nuit. Moi, quand j'ai des bébés à la maison, ben mon thermostat, je le laisse à 22-23 degrés. Puis là, ben, on me dit dans l'actualité qu'on nous conseille de mettre ça à 18-19-20 degrés. À cette température, là, mes enfants gèlent. Puis là, on me dit, quand il fait froid dehors, là, il y a des pics de consommation. Là, il faut limiter notre consommation d'électricité. Je peux faire un bout de mon bord, mais en même temps, moi, je suis un client, puis je paye pour un service, puis je veux que si j'ai besoin de laver mes enfants, je veux pas me dire, hey, tabarouette, je vais-tu faire couper l'électricité dans ma rue si je lave mes enfants? Je veux juste que le service se rende à moi, tout simplement. Mais ça, va falloir que autant la PDG que les syndicats travaille d'arrache-pied pour réussir à augmenter de 50 % la production d'électricité d'ici 10 ans, sans quoi on va être encore en train de demander l'hiver aux Québécois limiter votre consommation d'électricité parce qu'on n'est pas capable d'en faire plus, on n'est pas capable de pallier à la demande. Les histoires de Northvolt, ça nous regarde pas, ce M. Cazade. On veut rien savoir de Northvolt. On veut juste savoir ce qui se passe chez nous, dans nos résidences. On veut juste être chauffé, puis on va avoir l'électricité nécessaire pour laquelle on paye, soit dit en passant.
Mais moi, je vous dirais, M. Marceau, c'est il y a d'autres façons de l'adresser, le problème. On peut l'adresser, c'est des exemples légitimes que vous parlez, mais tu sais, ne serait-ce que prenez la nouvelle construction. Actuellement, vous pouvez acheter dans les nouveaux bâtiments un beau condo tout neuf avec encore des plaintes de chauffage à 50 $ de chez Rona ou peu importe. Alors que tout le monde sait qu'une thermopompe est plus efficace. Et vous allez payer très cher votre condo. Pourtant, vous avez le droit d'appeler les normes de construction. Est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, juste changer les normes de construction? C'est des gens de chez nous qui vont faire les travaux, puis on va pouvoir installer du meilleur matériel et on va pouvoir donc économiser de l'électricité de cette façon-là.
J'adore les solutions.
Si les bâtiments sont plus efficaces, on aura besoin de moins fournir d'électricité. Après, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que, par exemple, dans les périodes de grand froid, on peut dire de façon automatique à certains grands clients industriels qui ont un impact direct sur la consommation électrique? Là, actuellement, le mode d'affaires est plutôt de leur demander « peux-tu te retirer, s'il te plaît ?» Il y a certaines clauses aussi qui sont plus directes, mais souvent, ça cause des petits désagréments avec nos grands industriels. Mais est-ce qu'ils peuvent, de façon automatique, se retirer en période de grand froid? Ça ferait économiser, pareil, de l'argent et de l'investissement pour tous les Québécois.
Mais c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui bénéficient des services d'Hydro-Québec. On accueille des gens de l'extérieur, on est bien content des accueillir, puis le réseau, faut qu'il grandisse. On ne peut pas toujours demander des efforts supplémentaires aux gens. T'sais, moi, je ne veux pas que ça me coûte plus cher. Là. Vous me dites que vous allez me dire que l'électricité, c'est la moins chère qu'on paye ici, mais en même temps, c'est notre entreprise. Mm. J'ai rarement vu un propriétaire d'entreprise payer plus cher pour son électricité que ceux qui sont des clients. Là. Donc, c'est à nous. Mais de l'autre côté, moi, ce que vous m'amenez comme solution, si ça ne me coûte pas plus cher, on va tout sauter là-dedans, M. Cazade.
Mais c'est, en fait, c'est que M. Marceau, vous amenez des choses du point de vue du consommateur résidentiel et qui est aussi en tant qu'actionnaire de votre entreprise, parce que Hydro-Québec, vous êtes tous actionnaires. Il faut quand même remarquer que on vit du point de vue résidentiel avec une demande qui est croissante. Tu sais, la demande est croissante, mais légèrement, parce que c'est lié principalement à la démographie. On n'a pas une démographie quand même encore galopante, mais en tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que avec le nouveau projet de loi 69, c'est le fait qu'on va créer beaucoup plus d'électricité.
Oui.
N'oublions pas que les prochaines sources d'électricité qu'on va brancher sur le réseau, on peut penser nommément aux futures éoliennes, vont se détailler à peu près à 12 sous du kilowatt. Et on vous le revend, quand je dis on, Hydro-Québec, votre société d'État vous le redonne, vous, en tant que résidentiel, à peu près à 8 sous du kilowatt. Donc, à chaque fois qu'on produit 1 kilowatt additionnel avec le nouveau réseau, il y a de l'argent qui est perdu. Mais quand on parle du côté des grands industriels, eux, ils sont à 6 sous et en dessous. Je veux dire, à un moment donné, on peut penser qu'on va augmenter l'offre électrique avec la production, mais il faut faire attention. Plus on rentre de production et de consommation électrique au niveau du Québec, plus le déficit on achète à 12 sous, puis on vous le revend à perte, il y a quelqu'un qui va devoir payer au bout du compte.
Ouais.
Donc, ça va être soit le consommateur sur sa facture, soit c'est le gouvernement sur ses redevances hydriques. Tu sais, après, on ne peut pas le créer. Donc,
Mais c'est peut-être c'est peut-être le choix de l'éolienne, M. Cazade. C'est peut-être la solution de l'éolienne, M. Cazade. Peut-être que ce n'est pas la bonne façon de produire de l'électricité, l'éolienne. Mais ça, je veux dire, vous et moi, on n'est pas les décideurs qui vont dire quoi utiliser. T'sais, si vous me le demandiez à moi, ce serait le nouveau nucléaire. Pas l'ancien nucléaire comme à Gentilly, mais le nouveau nucléaire qui est utilisé partout dans le monde. On a 19 réacteurs nucléaires à grandeur du Canada. Ça fonctionne super bien. Mais au Québec, on est tellement des tarés et mal éduqués sur le nucléaire, qu'on n'acceptera jamais de ramener le nucléaire ici. Mais peut-être que l'éolienne, ça coûte juste trop cher, puis on devrait revenir avec anciennement avec les barrages, ou peut-être qu'on devrait faire plus de barrages. Je ne sais pas, je pose pas la question. Mais une chose est sûre, c'est que si vous devez augmenter de 50 % votre production d'électricité d'ici 10 ans, c'est votre employeur qui vous le demande, M. Cazade. Vous devriez amener des solutions, comme vous m'avez mentionné dans les dernières minutes, puis j'espère que ça va se rendre en haut quand vous amenez des solutions.
Mais écoutez, Monsieur Marceau, vous comprenez bien que les employés que je représente, tu sais, leur travail de tous les jours, c'est de proposer des solutions, puis les amener aux bonnes personnes. Et puis c'est pas nous sommes des employés, nous ne décidons pas. Puis les décisions se prennent beaucoup plus haut que nous. Puis c'est bien correct.
OK.
J'ai pas le salaire d'un PDG d'Hydro-Québec, loin de là.
Et puis, on a un point en commun, Monsieur Cazade.
Je n'ai pas ça, puis c'est pas à moi de prendre la décision. Maintenant, les décisions se prennent pour diverses considérations.
Merci, M. Cazade.
Ça fait un plaisir.
Au revoir. Bye-bye. Gilles Cazade, qui est président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec. C'est la nouvelle PDG d'Hydro-Québec qui veut des employés déraisonnables. Puis quand on entend ça, c'est normal un peu qu'on se... voyons, une PDG qui dit « je veux des employés déraisonnables ». Je pense que la plupart des gens qui sont des propriétaires d'entreprise veulent des employés qui sont raisonnables. Elle parle déraisonnables au niveau de l'imagination, de la création, de faire des choses différentes qui vont faire en sorte que ça va améliorer la productivité. Ça semble être mal perçu pour quelques syndicats, de ce qu'on comprend. Dans le cas du syndicat de M. Cazade, il est le président du syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec. Et eux, ce qu'ils mentionnent, c'est « si je prends une décision qui ne fait pas l'affaire des patrons, c'est qui va être responsable de la décision que j'ai prise parce que ma PDG a dit « soyez déraisonnables ».
Mais j'entendais dans votre discussion, puis j'analysais beaucoup les propos puis ce qui était répondu. Puis je t'amène un axe que j'avais le sentiment parfois qui trouvait que les solutions amenées et demandées aux citoyens là-dedans, là, nous, là, en tant qu'utilisateurs du réseau Hydro-Québec, c'était des solutions d'attente. Puis qu'eux aussi, ça les importunait. Parce qu'ils demandaient au réseau de se développer autrement. Ils demandaient à ce que certains problèmes soient recollés. Puis, tu sais, je dis pas que ce sont des saints dans leur façon de voir les choses, mais j'ai vraiment entendu un glimpse à un moment donné où j'avais l'impression qu'ils trouvaient que la demande qui était faite aux citoyens, aux utilisateurs d'Hydro-Québec, donc vous et moi, est un peu stupide parfois versus c'était quoi la vraie... Ouais. Lignée qu'on devait prendre avec le réseau.
Mais il va falloir faire les choses autrement. Là. C'est 50 000 travailleurs de la construction qu'on aura de besoin chez Hydro-Québec pour bâtir tout ce qu'on veut bâtir. Puis je comprends que la PDG, peut-être le mot déraisonnable, c'était pas le bon mot à utiliser, mais d'être plus créatif dans les façons de faire. C'est-à-dire ce qui s'est fait dans les 10, 15, 20 dernières années, ben on va regarder ce qui se fait de bon, ce qui se fait de moins bon, puis on va essayer des fois d'essayer des choses différentes, comme bâtir trois lignes en même temps plutôt que juste en bâtir une.
Ben, elle avait l'air de vouloir gérer dans la façon dont elle s'est exprimée, plus comme le privé versus le public, là. C'est une façon de ramener peut-être le monde à avoir des idées puis à les proposer. Est-ce qu'après, dans l'application, ça va se faire? C'est une autre question. Mark Carney, en ce moment, c'est dans l'actualité aujourd'hui. C'est au niveau du fédéral, ça. Mais essaie de rallier tout ce qui est communauté autochtone aussi pour le développement de projets. On sait que ça a toujours été un barrage ici pour voir. C'est un mauvais jeu de mots, là. C'était pas un jeu de mots en tout, là. Mais ça a toujours été un barrage du côté de la province. Est-ce que ça va dénouer aussi certains conflits ou conversations qu'on n'est pas capable d'avoir? Il y a beaucoup de choses là-dedans.
Ouais, il y a une des porte-parole d'Hydro-Québec qui est revenue un peu sur la déclaration de la PDG qui disait vouloir des employés déraisonnables. Elle dit, par risque calculé, ce qu'on dit, c'est qu'on veut encourager nos équipes à faire preuve d'initiative, à sortir des sentiers battus et proposer des solutions innovantes dans un cadre balisé. C'est beaucoup mieux dit.
Ouais, mais c'est un peu vide aussi.
Ben non, en fait, moi, ce que j'entends... Ben, pas du tout. Ce que j'entends, c'est ce que les vieux te disaient, ça s'est toujours fait de même, c'est pas vrai que toi, tu vas arriver, tu vas faire les choses différemment. Ben là, on te permet, en tant qu'employé qui est créatif, de faire les choses différemment, mais de les proposer en haut.
Ouais, jusqu'à temps qu'on te tape sur la tête parce que ça dépasse de tes tâches.
Ben ça s'appelle un boss. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire par rapport à ce dossier-là. Pascal, sur la route, là, il y a du débordement d'eau à plein endroit. On me parle d'aquaplanage, on me parle des côtes au centre-ville de Québec et en Haute-Ville qui sont problématiques. Où est-ce qu'on en est rendu?
Oui, bien, ce qu'on nous écrit, je vais y aller avec les textos en premier, après je m'en vais sur les cartes du 511. Mais ce qu'on nous dit, c'est que la côte Gilmore, il y aurait les policiers qui seraient dans ce coin-là pour faire un détour. Donc, pompiers, policiers dans le coin de la côte Gilmore pour vous réorienter. Énormément inondé sur le boulevard Champlain. Alors, ça fit la circulation qui ne fonctionne pas. Les gens passent tout droit, font pas de stop. Faites attention, on nous le précise par texto, comme quoi la signalisation ne fonctionne pas. Également, ce qu'on dit, c'est que dans le coin du pont, ça bouchonne, parce qu'il y a des accumulations d'eau dans les roulières, ça devient extrêmement dangereux. La 20 Est, hauteur chemin du Sceau, c'est le kilomètre 314 qu'il faut surveiller. La voie est partiellement entravée, vu l'accumulation d'eau. On nous dit prudence. Du côté du 511, Laurentienne Sud, hauteur avenue Tewksbury, voie de gauche bloquée, sortie de route, probablement parce que ça glissait également. C'est terminé, mais ça crée un ralentissement et c'est toujours à risque de glissement, d'aquaplanage. Duplessis Sud, hauteur boulevard Hochelaga, la voie de droite est bloquée vu l'accumulation d'eau. C'est très complexe sur le réseau routier et je terminerai avec toujours sur Duplessis Sud. L'accès pour le pont Pierre-Laporte, voie de droite, partiellement entravée vu l'accumulation d'eau.
Midi 27.
Merci.